Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est un projet de loi préparé par deux députés de la majorité et de la France insoumise. Il est né au début de l'été et porte sur les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, autrement dit les dénommées thérapies de conversion pour, entre triple guillemets, guérir les homosexuels. Le but de la future loi, c'est évidemment d'interdire ces pratiques, encore mal identifiées en France, mais plus banales, aux États-Unis et ailleurs, hélas. Organisées par des religieux ou des psys, ces soi-disant séances de thérapie sont censées amener la personne soit à changer d'orientation sexuelle, soit à choisir la chasteté. Les groupes religieux sont catholiques, comme le groupe Courage, ou protestants évangéliques, comme Torrent de Vie. On est parfois proche des dérives sectaires, mais pas tout à fait non plus, si bien que les victimes ne savent ni vers qui se tourner, ni à quel titre porter plainte. On ignore également combien de personnes ont à subir ce genre de pratique entre l'exorcisme et la psychologie de cuisine. La proposition de loi devrait être déposée au printemps de l'année prochaine et elle prévoirait 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour ceux qui se livrent à ce genre de violence, au minimum homophobe. Tout de suite, pour vous en donner un aperçu, c'est l'histoire de Kylie qui a grandi dans le Val d'Oise et qui travaille maintenant dans un magasin de vêtements. Ses parents très pieux fréquentent une église évangélique, la Voix de l'Éternel, et c'est là qu'il a été, entre guillemets encore, converti. On l'écoute au micro de Rémi Dibowski-Douatte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Kylie. On vit dans un petit village du 95, à côté de à Roissy en France, à côté de l'aéroport. Et on y est resté pas mal d'années là-bas. C'est là que j'ai vraiment fait mes années primaires, un peu de collège. J'étais un petit garçon très extraverti, tout le temps excité, je pouvais pas rester sur place. Et donc j'avais énormément d'amis, beaucoup d'amis. Je demandais tout le temps à mes parents de « Est-ce que je peux aller dormir chez un tel ?» ou « Est-ce qu'un tel peut venir dormir à la maison ?» Et c'est tout le temps oui. Donc moi je trouve ça super génial que mes parents ils soient aussi gentils, quoi. Et un soir, je vais venir dormir un ami à la maison. Après l'école, on sort, on traîne, on joue à la console. Une petite soirée pyjama entre garçons où vraiment on fait rien, mis à part rigoler. Vraiment des petits jeux, on joue à la DS. Voilà. Et donc ce soir-là, on était seuls, mon ami, ma mère et moi, et on regardait la télé, on rigolait, enfin, vraiment tous les trois. C'était vraiment une soirée tout ce qu'il y a de plus classique. Et à un moment vient où ma mère elle décide d'aller se coucher, parce que le soir arrive, et du coup comme c'était le week-end, nous on demande à rester un peu plus longtemps devant la télé, donc elle accepte. On regardait la télé, et on rigolait, on se taquinait, on se poussait, on chamaillait, c'était vraiment... Et puis là, tout d'un coup, on se fait un bisou. C'était vraiment un petit bisou d'enfant, quoi. Et il n'y a pas de raison à ça. Enfin, il n'y a même pas d'explication. On a 7 ans, c'est innocent. On peut même pas dire qu'on se cherche ou qu'on connaît notre sexualité. C'était une bêtise comme une autre. Hein. On ne sait pas pourquoi on l'a fait. Et à ce moment-là, j'entends taper à la porte. Et donc là, tout de suite, on s'écarte. Je me retourne, je vois ma mère, je sens dans son regard. Et là, je me dis... J'ai fait quelque chose de grave, j'ai fait quelque chose de mal. Et là, elle se met à pleurer. Je commence à avoir peur, mon cœur y va vite. Et je lui disais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parle-moi. Elle était effondrée par terre. Elle pleurait. Pendant qu'elle pleurait, elle me disait, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et du coup, là, avec mon ami, on se regarde. Et au final, je me rends compte que lui aussi, il pleure. Du coup, on est trois dans la pièce. À pleurer, avec la télé qui continue de tourner. Du coup, mon ami reste dans le salon, je vais dans ma chambre. Ma mère est là dans le couloir, toujours en train de pleurer. Je sais pas quoi faire, j'attends que ça se passe. Elle pleurait en boucle, tout le temps. Pendant, ça a duré facile, 15 bonnes minutes où elle pleurait. Une fois qu'elle a repris ses esprits, elle est venue me voir. Et elle m'a dit qu'elle m'emmènerait à l'église. C'est la première phrase qu'elle m'a dit après avoir pleuré. Donc mes deux parents sont ivoiriens, et donc on vient de la Côte d'Ivoire, ils sont de religion protestante. Donc j'ai toujours baigné dedans, donc ça a été tout le temps Dieu, dans toutes les phrases, dans toute, chaque acte qui se passe dans nos vies, que ce soit une naissance, un décès, une réussite scolaire, une réussite professionnelle. Tout le temps Dieu venait tout le temps dans les discussions, quoi. Tout était grâce à Dieu. Donc là, je sentais que quand on m'a dit « tu vas venir avec moi à l'église », je sentais que c'était pas une foi comme une autre. J'avais très très peur et quand on m'a dit ça, je lui ai dit « oui, d'accord, je vais venir ». Ce que je comprenais pas, c'est que autant moi, elle me forçait à aller à l'église, autant bah, mon amie, le lendemain, on l'a ramenée chez lui, elle en a jamais parlé à ses parents. Enfin, donc ça vraiment, je comprenais pas. Je me disais « mais alors pourquoi moi, c'est mal vu, c'est pas bien ?» Parce que clairement, j'avais compris que c'était pas ce que j'avais fait. Mais autant lui, bah, on le redépose chez lui comme si de rien n'était. Et puis voilà, ses parents sont pas au courant, il continue de mener sa petite vie. Et donc du coup vient ce fameux dimanche. Donc là, ma mère se prépare le matin avec des chants chrétiens qui résonnaient dans la maison. Je l'entendais chanter. Elle était contente. Je me dis bon, bah, ça va peut-être être un dimanche comme un autre. Et habituellement, quand on y allait toujours mon père, ma mère, mon grand frère, moi et mon petit frère. Mais cette fois-ci, c'était que ma mère et moi. On est partis tous les deux à l'église. On a vécu la messe classique. Et puis, vient la fin de la messe. Et là, ma mère va dans le bureau avec son pasteur. Donc moi, j'attends. Et puis, ensuite, il me fait rentrer dans son bureau. Et il me dit « oui, voilà, ta mère m'a expliqué ce qui s'est passé avec ton ami. Il faut qu'on te dise ce que tu as. T'es possédé par un démon, qui est le démon de l'homosexualité. » Il faut savoir que dans mes traditions, tout ce qui est possession, entité démoniaque, je connaissais, j'étais très familier. Donc j'ai cru ma mère, quoi. Si ma mère m'a dit que j'étais possédé, je me suis dit « bon, bah, d'accord, je suis possédé. » Mais en même temps, je me suis demandé ce que c'était, l'homosexualité. Aucun gamin de 7 ans sait ce qu'est l'homosexualité. Et donc, ils m'ont dit qu'en gros, j'allais venir certains vendredis à des veillées de prière. Donc, se réunir pour prier, pour lire la Bible, etc. Et il y avait des thèmes. Donc, par exemple, si tu veux te marier dans l'année, il y a un thème. Si tu veux avoir des enfants, il y a un thème. Et parfois, il y avait le thème démon, possession. Et après, des fois, il y avait des thèmes aussi clairement homosexualité. Et j'étais emmené à ces veillées-là, spécialement. Et en plus de ça, j'allais devoir tous les dimanches aller à l'église. Et donc, on est parti de là. Je m'en souviens, avant que tout ça se passe, quand on allait à l'église le dimanche, mon grand frère et moi avec mes parents, en ressortant, on allait au restaurant pour continuer justement cet esprit familial-là. Et malgré tout ce qui s'était passé, qu'on n'était que ma mère et moi, elle m'y a quand même emmené. Bah là, ça a commencé vraiment la confusion, dans le sens où d'un côté, on me dit que c'est mal, mais de l'autre côté, on continue à faire des choses comme si de rien n'était. Et depuis l'événement avec mon ami, quand je suis rentré, c'était la première fois que je revoyais mon père. Et en rentrant, donc on était en voiture, et j'ai compris qu'il était à la maison. J'étais terrifié, je me suis dit, oulala, là ce qui va se passer quand je vais rentrer, c'est que je vais en prendre, quoi. Je vais, clairement, il va me mettre sur la gueule. Donc j'avais très très peur, et on est rentré. Il m'a rien dit. Un bonsoir, voilà. T'as fait tes devoirs. Ok, prends ta douche, va te coucher, demain il y a école. Enfin, c'était neutre, comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais rien fait. Enfin, et là, c'est justement, ça crée encore plus cette confusion chez moi. Vu que c'était mal, j'aurais mérité une claque ou quelque chose comme ça, mais il se passe rien. Je me suis dit bon. Et du coup, je retourne à l'école ce lundi-là. Et ce fameux garçon-là, il répand la rumeur comme quoi je l'ai forcé à lui faire un bisou auprès de tout le monde. Et là commence la phase d'enfermement sur moi où ça marcelle un petit peu, ça « ah ah, t'aimes les garçons, pourquoi tu l'as forcé à faire ça ?» Et du coup, j'ai commencé à m'enfermer sur moi, à ne plus parler aux gens. Comme un petit gamin de 7 ans, je vais à l'école, rentre à la maison, je fais mes devoirs, puis basta, je ne sortais plus. Je me sentais rejeté. le vendredi soir, ma mère me dit, bon bah, ce soir, c'est la première veillée à laquelle je vais assister. On lit la Bible, on prie, on confesse nos péchés de minuit à 6h du matin. C'est-à-dire que moi, j'ai 7 ans. J'ai fait toute ma semaine d'école. Je fais mes devoirs, je mange, et là on part. Et donc la veillée commence. Puis il y a le pasteur de ma mère. Puis il y a toutes les personnes autour, quoi. Donc toutes ces personnes religieuses-là lisent des paroles de la Bible. Bah, je commence à somnoler. On me dit non, faut que tu restes éveillé, faut que tu restes éveillé. Me tiennent éveillé. Veulent que j'écoute, que je lise la Bible moi aussi. Ils voulaient laver mon cerveau avec toutes leurs paroles de religion. Ils voulaient que vraiment que ça rentre dans ma tête. Donc, t'es là, tu gardes les yeux ouverts, t'as ta Bible dans la main, tu dois la lire, tu dois intervenir, qu'on te demande d'intervenir. En fait, faut que tu montres que t'es présent et que tu veux bien faire et que si t'es là, c'est parce que tu veux du changement. Ça dure 6 heures, mais on lit pas la Bible vraiment pendant 6 heures. Après, on chante, on danse, il y a une période où il y a un petit temps où on mange. On tenait éveillé jusqu'à cette fameuse prière-là où là, je devais m'avancer devant les gens, devant le pasteur, me mettre devant lui, qui prie, qui m'impose les mains, qui me fasse lire des passages de la Bible où on me fasse comprendre que c'est pas bien, etc. Donc je les lisais, j'attendais, je fermais les yeux, j'attendais qu'on prie pour moi, puis j'allais me rasseoir à ma chaise. Et j'étais tout le temps le seul enfant qui participait. Pendant toutes ces années-là, je me suis dit, je dois être le seul garçon au monde qui aime les garçons. Donc c'est pour ça qu'on me fait subir ça. Donc en partant, on va dans le bureau et ma mère, elle transmet une enveloppe d'argent. À chaque fois qu'on priait pour moi, qu'on allait voir quelqu'un pour moi, pour me délivrer, pour enlever ce démon-là, à chaque fois, elle remettait une enveloppe. Je sais pas combien d'argent il y a eu, hein, mais vu le nombre de personnes qu'on a été voir et vu les années que ça a duré, je pense que c'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Vers voilà, mes 9 ans, bah, je commençais. On me disait que ce soit ma famille, que ce soit les amis de mes grands frères, mon grand frère, mes parents, ils me disaient que j'avais des manières. On me disait, oui, arrête tes manières, arrête tes manières, arrête. Fais attention à comment tu parles. Chose qu'on ne voit pas. Enfin, moi, je suis moi, j'ai 9 ans. Enfin, et moi, je ne comprenais pas plus que ça. Puis, bah, ça a continué des années. Puis, j'ai commencé à apprendre en âge. Et ouais, vers mes 10 ans, j'entends une conversation avec ma mère et son pasteur. Il lui dit clairement que ça ne fonctionne pas. Plus je grandissais, plus le démons s'enracinaient en moi. Et donc, du coup, fallait opter pour des solutions plus dures, plus sévères, plus violentes pour qu'ils s'en aillent. Et leur but final était que je subisse une délivrance, donc un exorcisme. Mais pour cela, il fallait que je suive un processus qui avait pour but d'affaiblir ce démon-là en moi pour que ça facilite la délivrance afin qu'il quitte plus facilement mon corps. Le pasteur de ma mère, il conseillait ma mère d'aller voir telle personne qui était connue pour changer l'orientation sexuelle des gens. C'était un prophète qui venait du Honduras. Donc là, il y avait énormément de monde. C'est-à-dire qu'il avait un micro, il y avait un traducteur. Enfin, c'était vraiment. On rentre dans cette salle. Je venais à peine de rentrer. Avec ma mère, on cherchait une place pour s'asseoir. Et il dit dans son micro, en me pointant du doigt, toi, t'as le démon de l'homosexualité. Prenez-le. Donc là, je vois des gens qui viennent autour de moi. Je commence un peu à stresser, à regarder ma mère avec des gros yeux, en mode « Maman ». Et elle me dit « Laisse-toi faire, vas-y ». J'avance vers cet homme. Il me demande de me déshabiller. Je me retourne, je regarde ma mère. Ma mère, sans réaction, sans mots. Du coup, je me suis déshabillé. J'étais en sous-vêtements. Et il me dit non, ça aussi. Donc je l'enlève. Et bah, je me cache le sexe. Et là, il me dit non, tu mets les mains en l'air. Je m'exécute, encore une fois. Là, il commence à prendre un bol de sel et il commence à prier, à dire certains mots et à me les jeter sur moi. Il parlait au démon et il disait lâche-le, lâche-le, quitte son corps, tu n'as rien à faire là, lâche-le, lâche-le. Et à un moment, il prend son micro et il dit que toute personne qui veut prier pour lui s'avance. Donc j'étais dos aux gens, donc j'étais juste face à lui, donc j'avais toutes les personnes dans mon dos, y compris ma mère. Nu, les mains en l'air. Mais bon, je ferme les yeux, je garde les mains en l'air, et à aucun moment j'ouvre les yeux, parce que je veux voir aucun visage, je veux ressentir aucun regard, je veux juste mourir sur place, attendre que ça passe et me rhabiller et aller m'asseoir derrière, comme si bah rien ne s'était passé. Et au bout de 5 bonnes minutes, je sens qu'on me met un drap autour de moi. Donc là, je comprends que c'est la fin, que je peux m'habiller, etc. Je vais m'asseoir auprès de ma mère. Elle était en pleurs. Et elle disait, merci Seigneur, pardon Seigneur, pourquoi je mérite ça? Je suis resté assis là, la tête baissée tout le long parce que je voulais pas croiser un seul regard, je voulais juste disparaître, être invisible. Et en partant, les personnes ont commencé à venir voir ma mère et à lui dire, oh ma pauvre, nous sommes désolés pour toi, ta famille a été maudite. Et bah, en gros, j'étais le résultat de cette malédiction, quoi. Là, j'ai commencé à ressentir de la colère, de la rancœur envers mes parents. On me fait passer pour la malédiction de la famille, alors qu'à la base, je suis un enfant, quoi. Je fais ma scolarité. Ok, on me dit que je suis efféminé, que j'ai des manières, mais enfin, laissez-moi vivre ma vie de petit garçon, quoi. Et au final, on me fait passer pour le vilain petit canard, pour la malédiction de la famille et tout. Et en fait, tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Mais j'en parle jamais. À l'âge de 12 ans, je rentre au collège et là je commence à voir d'autres garçons efféminés, d'autres garçons qui clairement disent qu'ils aiment les garçons, des garçons qui viennent me voir, t'es très beau, ils sont plus vieux que moi, ils vivent leur sexualité, si on peut dire ça, très bien, enfin ils sont efféminés, ils s'assument, il n'y a personne qui les embête et en fait je me suis mangé une claque. Je me suis dit, écoute, si t'as subi tout ça, bah autant que ce soit pour des raisons justifiées. Bon, du coup, mes manières, je vais les assumer. Ma féminité, je vais l'assumer. On va voir bien où ça nous mène, quoi. Et là, ça commence la phase de détachement avec mon grand frère. Mon frère, c'était vraiment mon frère adoré, c'était mon grand frère, c'était mon exemple. Je voulais tout le temps m'habiller comme lui, tout le temps traîner avec lui, même si je sais clairement qu'il n'avait pas mon âge. Et j'étais un peu son petit boulet. Et mes parents, ils le forçaient à me prendre avec lui quand il sortait. Mais vraiment, une super complicité avec mon frère. Et donc, bah, il a commencé à avoir honte de moi. Il a même commencé à me renier, à me traiter de pédé devant ses amis, à laisser les autres m'insulter. Et mes parents, ils ont vu ça, que je commençais à m'affirmer. Donc, ils en ont parlé à leur pasteur. Et là, je comprends que le démon qui était en moi, il était beaucoup trop fort. Que des fois, quand j'arrivais devant mes parents, ils le voyaient et pas moi. Ils voyaient le démon et qu'il faisait 2 mètres sur. Enfin, voilà, qu'il faisait le double de moi et qu'il était devant moi et qu'il était vraiment. Il voulait pas quitter mon corps. Et donc, du coup, là, j'ai compris que. Ils allaient devoir l'affaiblir. Et pour l'affaiblir, j'allais devoir jeûner. Pas boire, pas manger pendant 3 jours. C'était 3 jours dans ma chambre, enfermée. Je voulais tout le temps dormir pour que ça passe le plus vite possible. Et mon grand frère, qui était très pour, hein, du coup, il venait checker. C'est-à-dire qu'il venait, il me tirait la langue. Oui, pourquoi t'as pas la langue blanche? T'as mangé, t'es parti prendre à manger dans le frigo, etc. Ce qui était vrai. J'ai mangé un carré de chocolat blanc. Au bout de la première après-midi, quoi, je crevais la dalle. Enfin, j'avais faim, quoi. C'était le seul carré de chocolat que j'ai mangé. J'ai pas bu, j'ai rien fait. Et j'avais pas le droit de bah, d'avoir une tentation, c'est-à-dire que regarder la télé, voir des garçons, etc., etc., pour vraiment l'affaiblir, etc. Donc, ces 3 jours-là viennent à leur fin. Mais ils sentent que le démon, il est encore là. Mais encore plus fort qu'avant, encore plus énervé, encore plus, et il est prêt d'en découdre. Et donc là, je sens un peu la gravité de la situation, je sens que. Ils voient pas d'autre solution à part le jeûne et la délivrance, quoi. Et pendant toutes ces années-là, c'est la seule fois où je commence à avoir peur pour ma vie. Où je me suis dit, après toutes ces années-là, après tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on m'a fait faire, si ils voient que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'ils vont me tuer? À la fin, je voyais plus mes parents comme mes parents. Et je me dis, ok, là, faut que tu rentres dans leur jeu à tel point qu'ils vont comprendre que ça a fonctionné et que tout ça va s'arrêter. Et que, voilà, on va te laisser tranquille. Et un jour, à l'âge de 12 ans, après un dimanche soir à l'église, je comprends que c'est le moment ou jamais, c'est là que je vais subir une autre délivrance, après une période de jeûne. Donc le dimanche, après l'église, une fois que tout le monde a quitté l'église, je vais dans une pièce avec ma mère, mon père, leur pasteur, des prophètes, des diacres, enfin, on est à peu près 10. Ils se mettent à prier, lire la Bible. Ils me faisaient boire et me jeter de l'huile d'olive classique sur laquelle ils avaient prié. Et il y avait l'onction de Dieu dedans. Donc ils me la faisaient boire et me la jetaient dessus pour justement faire fuir le démon et faciliter son départ. Donc là, je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Et donc du coup, je suis rentré dans leur jeu. Clairement, j'étais assis sur la chaise, je commençais à trembler, faire les yeux blancs, et puis je tombais de ma chaise. Et j'ai continué à trembler. Quand ils me jetaient de l'onction, j'avais une réaction. Donc ils finissent leur prière. J'entends glorifier le Seigneur. Ah, ça a fonctionné. Il est parti. Il est guéri. Le démon a quitté son corps. Du coup là, je vois mes parents hyper heureux, etc. Contents, remercient Dieu, etc. Ça redonne une enveloppe. Donc on rentre à la maison. Ils disent à mon frère que ça a fonctionné, etc. Et là a commencé le dégoût pour moi-même, le rejet de moi-même, le rejet de ma personne. Il fallait que je gomme toute trace de féminité, il fallait que je gomme tout ce qui pouvait m'attirer des garçons, il fallait que je sois la personne qui pense que j'étais devenu. Et c'est ce que j'ai fait de mes 12 ans à mes 20 ans. J'ai commencé à fréquenter des filles, je ramenais des filles à la maison. Je voulais vraiment que mes parents soient convaincus, tellement j'avais peur d'y retourner. Les études qu'ils veulent que je fasse, je les fais. Les filières qu'ils veulent que je prenne, je les prends. Vraiment, le petit garçon parfait. Mais même en faisant tout ça, ma mère, elle venait quand même me voir et me dire « Si un jour ça revient, redis-le-moi. Et on recommencera. » J'avais pas le droit de faire un faux pas. J'avais pas le droit. Et puis jusqu'au moment où j'en ai eu marre de faire le petit garçon parfait, j'en ai eu marre d'écouter tout ce qu'il voulait. Donc après avoir obtenu mon bac S, qu'il voulait que je fasse un bac S, alors que moi j'étais plus attiré par les langues, par tout ce qui était littéraire, j'en ai eu marre. Je leur ai dit non, je ferai pas d'école de médecine, non, je ferai pas d'école d'architecture, et j'irai en fac de langue. Enfin les langues, moi c'est vraiment ce que j'adorais, enfin, alors d'aujourd'hui je parle 3 langues, enfin, c'est vraiment ce que je voulais faire. Ils m'ont laissé le faire, à une condition, c'est que... je me finance. Donc pour ça, j'ai dû trouver un travail étudiant. Mon permis, je me le suis payé tout seul. Ma voiture, je me la suis payée toute seule. Enfin, j'ai toujours voulu ne rien leur devoir. Et j'ai fait 1 an de fac. Et en étant dans la vente, parce que mon job étudiant, c'était dans la vente, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était un peu la mode, etc. Et un matin, mon directeur de magasin il me propose un 35 heures. Mais moi, pour moi, le 35 heures, c'était pas juste un 35 heures. C'était le moyen de m'émanciper, d'être indépendant et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je continue d'être un garçon ouvert aux gens. Enfin, tout le monde venait chez moi, mes amis filles, mes amis garçons. Enfin, vraiment, tout le monde venait chez moi. Et un soir, Mon père me dit, ouais, je veux plus que tes amis garçons viennent à la maison. Et là, je pense que là, ça explose toutes ces années de... où il s'est contenu. Ça explose. Clairement, il devient très violent avec moi. Et bah, donc, ça, cette dispute a emmené au fait que bah, j'ai été mis à la porte. À mes 20 ans. Une fois que j'ai retrouvé mon appart, que j'étais enfin posé, installé, j'avais ma petite routine et tout, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Et elle me dit, oh, c'est super, c'est une fille, elle est de quelle origine? Je lui ai dit, maman, tu fais fausse route. Et tout de suite, elle comprend et elle me dit, ah, c'est revenu. Tu sais bien que c'est contre nature, etc. Blablabla. Enfin, bah, tout le discours que j'avais eu pendant toutes ces années, il était revenu d'un coup. C'était le cadet de mes soucis. Je lui ai dit, écoute, c'est comme ça que je vais vivre ma vie. Donc, soit tu, ta vie, tu la vis à mes côtés, soit tu la vis loin de moi, mais moi, ça changera rien à ma vie. Et en même temps, j'en profite pour m'outer auprès de tout mon entourage. C'est-à-dire que je lui ai pris mon téléphone, je me suis pris en vidéo, où je dis clairement, bon, voilà les gars, je suis gay. Et je leur ai envoyé. Sans oublier personne, j'ai envoyé vraiment à tout le monde. Et mon frère, tu sais, la relation avec mon frère, elle était ruinée. J'étais mort à ses yeux, clairement. C'était ce qu'il disait à ma mère, ce qu'il me disait à moi, aux gens dehors, qu'il ne me considérait plus comme son frère, enfin. Donc, c'était mon grand frère, quoi, c'était. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. J'ai été mis à la porte par mon père. J'ai plus aucun contact avec lui. J'ai plus aucun contact avec mon grand frère. En ce qui concerne ma mère, je l'aime. On est toujours en contact. Elle est totalement en accord avec mon choix de vie. Ça reste contre sa religion, mais elle me soutient. Parce que je suis son fils et qu'elle m'aime, et elle me l'a dit qu'elle m'aime, qu'elle me renierait pour rien au monde. Elle s'excuse de ce qu'elle m'a fait subir pendant toutes ces années-là. Et je lui en veux pas du tout. Pas du tout.
C'était Thérapie de conversion, un reportage de Rémi Dibowski Douat, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Kayley et à Andy Millet, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Aurélie Marseille.